Est-ce qu'on peut allumer la lumière? Il va faire tout nuit sinon.
Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite tête de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégés, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette fête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Bonsoir!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau rendez-vous du podcast Le Récapito. Je suis Emilien, votre hôte dévoué. Aujourd'hui, pour notre 31e épisode, nous devons malheureusement composer sans Damien,
oh là là,
notre co-animateur habituel qui est absent pour cause de maladie. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Heureusement, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde, notre étoile montante du monde du divertissement. Passionnée, charismatique et incroyablement talentueuse, Mathilde est une experte incontestée des séries et des films des plateformes de streaming.
Bien évidemment.
Préparez-vous à être guidée à travers les dernières sorties, les séries cultes et les films incontournables par la brillante Mathilde. Attachez vos ceintures, car elle est sur le point de vous offrir une expérience audio extraordinaire remplie de découvertes cinématographiques inoubliables.
Je suis Space Mountain. C'est moi.
Ça te...
Je comprends mieux pourquoi tu mets plus les introductions dans le déroulé pour pas qu'on les lise.
Il faut que je vous avoue un truc, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est ChatGPT qui a écrit cette intro.
Incroyable.
C'est pour ça qu'elle est drôle et qu'elle est bizarre.
Elle est ultra chelou.
Elle est très bizarre. J'ai envie de les faire à chaque fois comme ça parce qu'elles sont drôlement bien. Et comment ça va autrement?
Ça va bien. Moi, j'ai un rhume, mais je suis pas malade au point de pas venir, quand même. En même temps, pas venir dans ma maison, ça serait embêtant.
Ça dénonce. Ce mois-ci, on va parler de Queen dans le Récapito avec The Power sur Prime Video, Queen Cléopâtre sur Netflix, Queen Charlotte sur Netflix aussi, Aspergirl sur OCS et Queer Eye sur Netflix.
Beaucoup de Queen.
Que des Queen. Mais avant, on va faire beaucoup, 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 beaucoup d'actu. Qu'est-ce qui se passe chez Disney Plus?
Bon, je sais pas, moi.
Alors que la Walt Disney Company traverse un épisode de crise financière assez sévère, la plateforme se sépare de plein de séries, de films et de documentaires.
Ils ont pas refait les droits?
C'est pire que ça.
Ils ont tout jeté à la poubelle.
Un peu. Rien de bien étonnant, plein de films et de séries qui quittent les autres plateformes, c'est normal, c'est me vrai. Direz-vous. Que nenni. Il s'agit aussi de Disney Plus Originals qui s'en vont.
Et oui,
parce qu'au final, ça va nulle part. Bah, ça disparaît.
Ils n'ont pas le droit de faire ça.
C'est leur truc, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Au final, c'est 27 films et 64 séries qui s'en vont, notamment Artemis Fowl.
Bah,
c'est quand même un gros film de Disney Plus. Il y a Chien guide d'aveugle en devenir.
Non. Non, j'ai pas eu le temps de regarder la suite.
C'est parti. Le monde selon Jeff Goldblum part aussi.
Bah non, j'ai pas eu le temps de regarder non plus.
Et Willow.
La série
qui est sortie en décembre.
Mais c'est pas possible.
Est déjà partie.
Pourquoi? C'est quoi l'explication?
L'explication, c'est que c'est purement par intérêt économique. Parce que si un programme n'existe plus, il n'y a plus d'impôts à payer dessus et plus de droits d'auteur aux ayants droit. Donc c'est des économies de bout de chandelle, mais qui...
Ouais, enfin ça fait vraiment, on a écrit un livre et on le met au feu, quoi.
Un peu.
C'est trop bizarre. C'est un choix très étrange.
Et plein de gens commencent à râler en disant, vous voyez, on atteint la limite du streaming, c'est que Artemis Fowl, introuvable légalement.
Oh.
Du coup, ça n'existe plus légalement. Autrement, Netflix devient relou, ça y est.
Ah, ça, je peux le dire. Hein. Si tu... Ça, je peux l'expliquer. C'est la fin du partage de compte hors foyer. C'est arrivé. C'est ici, chez nous, en France. On a reçu notre notification sur l'appli. On allume la télé. Et là, il y a marqué « Vous allez devoir vérifier vos comptes, blablabla, blablabla. Bla, » bla. Pour l'instant, on a un sursis. Mais vraiment, ça s'annonce tendu. Parce que moi, je vais peut-être pas aller chez ma sœur, hein, qui habite en région parisienne, pour aller mettre un petit code tous les mois. Hein, ça va être complexe.
C'est compliqué.
Comment on va faire ?
On va quitter Netflix.
Ou alors, on va prendre un abonnement avec des gens qui habitent juste à côté de chez nous.
C'est une éventualité aussi qu'il va falloir envisager. Ou alors, payer 6 euros à ta sœur, par mois.
Oh non ! Autant le prendre tout seul, non ?
Peut-être que c'est mieux de le prendre seul.
Ouais.
Ouais.
Je sais pas, on verra. Moi, je suis pour la co-aidance des gens qui habitent près.
La co-entraide.
Oui, l'entraide.
La grève des scénaristes est de retour.
Bouh !
Est-ce que tu te souviens de la grève des scénaristes de 2007 qui avait duré 100 jours et qui avait bloqué pratiquement toutes les productions de séries à l'époque ?
Eh oui, c'était un grand désarroi pour moi. Une année noire, une année horrible.
On avait 15 ans, t'en fais peut-être beaucoup.
Non, vraiment, non, sûrement pas.
Eh bien, en tout cas, depuis le 2 mai, la grève est de retour. Les scénaristes des États-Unis sont à l'arrêt. La cause de leur colère, une baisse des rémunérations due à la diminution du nombre d'épisodes par saison, une baisse des droits d'auteur due à la diffusion des séries sur des plateformes et l'arrivée de l'IA qui pourrait les précariser encore plus.
Alors, on va se calmer avec l'IA hein, parce qu'on voit ce qu'elle fait chez nous des fois. Faut quand même lui donner beaucoup d'indications pour qu'elle sorte des trucs. Mais je vous avoue, la dernière fois, je lui ai dit « Allez, on va écrire une histoire, je donne les lignes » et elle m'a sorti le titre. Un titre incroyable. Donc, c'est vrai, ça peut faire des trucs incroyables.
Ça peut.
Ça peut.
Des séries sont évidemment à l'arrêt. Il y a Stranger Things pour Netflix qui est stoppé. Concernant les Anneaux de Pouvoir, alors d'abord, je suis content d'apprendre qu'il y avait des scénaristes pour cette série.
Ah bon ? Ils étaient là ? C'était pas une IA pour le coup.
Ah, on aurait pu croire. Le tournage est en cours, mais l'absence des showrunners sur le tournage pourrait ternir la qualité de l'histoire.
Ah bah encore plus.
Et comme il n'y avait pas vraiment d'histoire, bon bah est-ce que vraiment... Mais il y a un truc en fait, c'est que...
En roue libre.
Quand les showrunners ne sont pas sur place, le scénario n'a pas le droit d'être modifié. C'est la législation qui fait ça.
Incroyable.
Donc là, le scénario des Anneaux de Pouvoir est écrit, mais il ne peut pas être modifié. Donc s'il y a des problèmes, s'il y a tout le temps des problèmes des réécritures, ça peut être pas cool.
J'espère qu'ils n'ont pas fait de faute de frappe dans le texte. Tu crois que les acteurs ils sont obligés de dire des mots si ce n'est pas les bons ou... S'il y a une petite faute de bras et que ça peut changer le mot.
Non, en principe, le scénario, il n'y a pas tous les dialogues, je crois. Ah. L'écriture de Blade est à l'arrêt pour Disney+, tandis que les tournages de Daredevil, Born Again et Andor sont perturbés.
Oh bah écoute, Daredevil, en même temps, peut-être, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Mm. Peut-être qu'il ne faut pas qu'elle sorte cette série.
Et enfin, pour HBO Max, même si le scénario de House of the Dragon est terminé, la présence des scénaristes sur le tournage devrait perturber l'absence des scénaristes sur le tournage.
La présence aussi, parce que c'est... quand ils sont présents, c'est nul. Quand ils sont présents, c'est vraiment pas ça. Hein.
Ouais.
Allez-vous-en. Peut-être que ça sera mieux du coup.
Peut-être aussi. Hein. En revanche, la saison 3 de Euphoria et la saison 2 de The Last of Us sont à l'arrêt et n'arriveraient pas avant 2025.
Et bah voilà, voilà. 2025, The Last of Us, oh là là, ouais. C'est long.
Et enfin, bonne nouvelle.
Oui, on danse.
Pour
on
terminer danse. Ces actus, Downton Abbey fait son comeback.
Sur quelle plateforme ?
On ne sait pas. Je pense que c'est la télé anglaise qui commande.
Oui, je pense aussi.
Qui commande cette nouvelle saison. Donc après 8 années d'absence et 2 films
exact.
Pour combler le manque des fans, oui. La série fait son retour sur le petit écran. Et selon le site Stream News, des proches de la production ont avoué que la série pourrait revenir dès la fin de 2024.
Oh, mais quelle bonne nouvelle.
Un casting est actuellement en cours et le retour des stars du show est espéré, raconte Julian Fellowes, le créateur de la série.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, Downton Abbey, c'est une incroyable série. Vous voyez Bridgerton, eh ben, c'est 1000 fois mieux, c'est 3000 fois mieux, c'est incroyablement mieux. Si vous devez choisir, cliquez sur Downton Abbey.
Tout est dispo sur Netflix.
Tout est dispo sur Netflix. D'ailleurs, ça me donne grave envie de me la refaire. J'ai au moins regardé 3 fois, peut-être 4, cette série. Je ne m'en lasse pas. Elle est incroyable.
Eh bien, le mois prochain, Mathilde nous parlera de l'intégrale de Downton Abbey. Quand même pas ?
Non, je suis en train de faire un marathon de The Legacy, donc il y a peu de chance quand même. Je suis déjà à la saison 3. J'en ai regardé 3 ce mois-ci.
Bravo.
Il m'en reste une.
On peut passer aux séries ?
Yeah.
On va commencer par The Power, la saison 1 sur Prime Video, qui compte 9 épisodes de 60 minutes. Ça avait commencé le 30 mars 2023. On avait pu voir le tout début à Sériemania. On va continuer à le placer tant qu'on n'aura pas vu tout ce qu'on a vu à Sériemania.
Ah, mais surtout qu'on est en duo, là, donc oui. En plus, l'équipe, la fine équipe est réunie.
On l'a vu tous les trois, Damien aussi l'a vu. C'est une nouveauté parce que la diffusion...
C'était Damien.
Intervention de Damien. Parce que la diffusion s'est terminée ce mois-ci. Et ça parle de quoi ?
Alors, ce monde et le nôtre à une différence près, les adolescentes développent soudain le pouvoir d'électrocuter autrui à volonté. En suivant des personnages extraordinaires de Londres à Seattle, le pouvoir passe d'une torsion dans la clavicule des adolescentes à une inversion totale de l'équilibre du pouvoir. Alors, c'est vraiment un résumé qui n'a aucun sens. Je vais refaire un résumé. Du coup, on est dans un monde qui est similaire au nôtre jusqu'au jour où il y a des femmes, des jeunes adolescentes qui se mettent à développer un pouvoir. Elles ont de l'électricité dans les mains et en fait, on se rend compte que cette électricité ne vient pas de leurs mains, mais d'un nouvel organe qui se trouve dans la poitrine.
Dans les clavicules.
Ouais, dans les clavicules qu'ils appellent le fuseau. Et ce fuseau permet de générer de l'électricité un peu comme des anguilles.
C'est vrai.
Et on va suivre plusieurs femmes aux quatre coins du monde et on va voir en quoi ce nouveau pouvoir fait évoluer la société et inverse le... Je ne sais plus.
Le pouvoir. Le rapport de force.
Le rapport
bouleverse
de force.
Le patriarcat.
C'est ça.
Je commence si tu veux bien parce que je pense que tu as plus de choses à dire que moi.
Oh, je me suis limitée, mais vas-y. Si je peux te couper juste 2 secondes, c'est l'adaptation d'un roman qui est sorti en 2018 en France, qui s'appelle également Le Pouvoir, de Naomi Alderman. Voilà, c'était juste pour rappeler d'où venaient les choses, parce qu'un scénario comme ça ne sort pas de nulle part.
C'est vrai. Eh bien, cette série est très intelligente, il y a assez peu de faux pas. Tout au long du visionnage, j'ai pensé à Heroes, je crois que je l'ai répété à chaque fin d'épisode. Les longueurs et les arcs narratifs en moins, les arcs narratifs inintéressants en moins cependant. On retrouve même quelques codes qui faisaient la réussite de la série. Les personnages étalés aux quatre coins du monde, l'allié sans pouvoir, l'homme ou la femme politique, la musique incroyable, l'adolescente qui galère à trouver sa place et d'autres trucs. Mais là, c'est déjà pas mal. J'ai adoré la narration de cette série. J'ai aimé tous les personnages. Mais bref, je crois que c'est la mère Cléry Lopez, Joss et Tatiana. La musique est vraiment très belle, comme je l'ai déjà dit. Les images très contemplatives apportent un vrai ton et un vrai rythme. C'est une série très politique qui parvient à être super pertinente. C'est évident que si ces phénomènes arrivaient, c'est ça qui se passerait. C'est sûr. Et pour finir, je crois que la série ne plairait pas à Frédéric Becbédé.
Sûrement pas, ouais. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Donc moi, j'étais trop contente de pouvoir découvrir cette série à Sériemania. Je pense que c'est une des séries que j'avais le plus envie de voir. Et vraiment, avoir la chance de voir les 2 premiers épisodes sur grand écran, c'était vraiment cool. Parce que quand on a relancé à la maison, Bah oui, il y a énormément de plans contemplatifs. Et la musique est incroyable. Et pour avoir eu la chance de vivre ça au cinéma, c'est vraiment top. C'est vraiment une série qu'on pourrait projeter, en fait. Hein. Clairement, elle est presque faite pour ça. Du coup, moi, j'ai vraiment aimé ce côté-là, la musique, les plans contemplatifs. Je trouve que c'est une série qui bouleverse vraiment. Moi, elle m'a chamboulée. Des fois, j'avais envie de me révolter. Des fois, j'étais émue de ouf. J'ai pleuré. Il y a des scènes vraiment... d'une violence sans nom dans cette série. Et sinon, j'ai un peu moins aimé certains arcs narratifs. Il y a des persos que je trouvais peut-être un peu moins intéressants. En tout cas, leur histoire m'a moins absorbée. Il y avait l'arc de Roxy et celui d'Eve aussi. En gros, je pense que celui d'Eve, c'est principalement parce que je vois pas où est-ce qu'ils veulent en venir pour le moment.
Oui, je suis un peu d'accord.
Le truc un peu mode religion, secte et tout, ça me passionne moins. Alors qu'à côté de ça, il y avait tout ce qui se passait avec la famille de Josh, de Josh, je crois. Et sa mère aussi qui est en politique. Et puis il y a aussi toute la partie sur Tunde. Il y a tout l'épisode où on le suit. Je ne sais plus dans quel pays il va.
Un pays du Moyen-Orient, en tout cas, je crois.
Et du coup, il va dans ce pays et les femmes sont en train de faire la révolution, si on peut dire. Cet épisode, il m'a complètement bouleversée.
Bah
C'était un des épisodes les plus forts en émotion. Et je crois que c'est un des épisodes de série vraiment... En fait, j'avais vraiment l'impression que c'était possible et que ça se passerait comme ça. Et que c'était des scènes de tous les jours, en fait, qui pouvaient se passer là-bas.
Moi, je suis vraiment épaté par la pertinence de la série. Je l'ai déjà dit, mais c'est quasiment sûr que tout se passerait comme ça, quoi.
Ouais, et du coup, moi, j'ai vraiment adoré cette série. Je pense que c'est une de mes séries coup de cœur. Et la façon dont elle est écrite, elle m'a un peu fait peut-être aussi penser le côté sororité et tout ça à Motherland for Salem. Toi, tu ne l'as pas vu. Sauf que du coup, dans Motherland for Salem, tu as le côté un peu science-fiction parce que ce sont des sorcières. Mais du coup, on retrouve un peu ça dans cette série, parce que certes, c'est pas une série de science-fiction, mais il y a le côté pouvoir qui les relie et tout ça. Et le fait qu'elles donnent, le fait qu'elles peuvent se donner le pouvoir, ça crée quelque chose de...
Trop bonne idée.
De super... Ouais, ça crée un lien entre les femmes. Et il y avait un peu ça aussi dans le côté sorcière. En fait, moi, je les vois un peu... Ça fait un peu ça... On dit souvent que les féministes, elles adorent le mot sorcière, et je trouve que cette série, elle met ça en lumière aussi, un peu ce côté, ce pouvoir, c'est un peu leur sorcellerie à elles et tout. J'ai trouvé ça trop cool. Donc ouais, gros coup de cœur, et j'ai hâte de voir comment la série va évoluer. Je pense qu'il y aura une suite, c'est sûr. Et j'ai également pris à la bibliothèque le roman de Naomi Alderman pour le lire. J'avais commencé à le lire en 2018, et puis je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé. Mais là, j'ai vraiment envie de me remettre dedans et voir la différence avec la série. En fait, c'est une adaptation un peu comme La Servante Écarlate, qui est un livre unique. Et en fait, ils en ont tiré quelque chose en série pour raconter une histoire. Il me semble que là, c'est un peu fait de la même façon. C'est un roman, enfin un one-shot. Et en gros, ils en tirent quelque chose pour faire une série.
Yes. Quand tu as dit, quand tu as parlé de Ève et de la religion, en fait, je me rends compte que j'ai préféré le traitement politique de la série plutôt que mystique et religieux. Parce que l'histoire de Eve parle que de ça, mystique et religieux. Et ça m'a moins passionné. Mais peut-être que ça sera plus développé ou dans les suites. Et très hâte de voir la suite aussi.
On poursuit avec Oh Kitty, qui est sorti le 18 mai, donc c'est une nouveauté, c'est la saison 1, elle comptait 10 épisodes de 28 minutes, donc une série courte, et c'était dispo sur Netflix. Kitty Song Corvée, pense tout savoir sur l'amour. Quand elle part à l'autre bout du monde pour retrouver son petit ami, elle se rend compte que les relations sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Alors moi, j'avais hâte de voir cette série qui est une suite des films à tous les garçons que j'ai aimés. Donc on suit Kitty cette fois-ci, qui est la petite sœur de Lara Jean. Et elle décide de partir en Corée pour une de ses années de lycée, pour rejoindre son petit ami qui est coréen, qu'elle a rencontré lors d'un voyage avec sa famille là-bas. Et donc elle arrive et grand désarroi. Il s'avère que ce petit ami apparemment aurait une autre copine. Aïe aïe aïe, c'est mal parti. Mais elle y va pas que pour ça en Corée, elle y va également parce que sa mère est coréenne et que sa mère a passé un an dans cet établissement scolaire qui est un lycée international. Donc c'est plutôt pas mal parce que la série est vraiment un mix entre une série américaine et un drama coréen, vraiment. Et sauf que c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, donc c'est trop bien. Oui. C'est trop bien. J'aime bien le mélange du coup entre les séries américaines et le drama coréen. On retrouve des scènes au ralenti, la musique trop cool et les rebondissements qui n'en finissent pas. J'ai beaucoup aimé comment la sexualité est abordée dans cette série. On nous rappelle bien qu'en Corée du Sud, c'est pas des pays super ouverts, où là, par exemple l'homosexualité, c'est pas, tu peux pas faire ce que tu veux, là-bas c'est encore très très mal vu. Donc j'aime bien ça, et pourtant la série prend le parti d'en parler et de mettre en avant des personnages LGBT. Donc je trouve ça plutôt cool. Mmh. J'ai regardé la série en 2 jours, donc je pense que j'ai aimé. J'ai même trop aimé et depuis j'écoute la playlist en boucle, je la trouve vraiment trop trop bien et j'espère qu'il y aura une saison 2. Je crois même que j'ai préféré cette série au film à tous les garçons que j'ai aimé. Voilà,
cool.
Et je crois que c'est une des premières séries où l'héroïne est officiellement bi. Voilà, il y a pas beaucoup de séries.
Je vais enchaîner avec une série qui s'appelle Louis 28 qui est sorti en janvier 2023. C'est 10 épisodes de 22 minutes et c'est sur France.tv. Le résumé, c'est Paris de nos jours dans une France où la monarchie n'aurait jamais été abolie. Quand un accident d'avion coûte la vie à toute la famille royale, Samia apprend que son fils, un adolescent immature et nigo...
Nigo, ouais.
Est l'héritier du trône de France.
Oh, mais ça a l'air très marrant comme série, t'as regardé ça quand ?
Je regardais ça le midi en mangeant.
Ça a l'air marrant.
Eh ben, oui, ça a l'air.
Ah, merde.
Vous vous souvenez...
Ouais, moi, je me souviens de Révolution avec en mode vampire. C'est un peu vampirien, hein, Révolution. Le vampire de Victor Dixon, c'est un peu...
Oui, c'est vrai.
C'est un peu, la Révolution française. Enfin, la Révolution sur Netflix.
Donc, tu te souviens de la série La Révolution sur Netflix. Eh ben, Louis 28, c'est l'exact opposé.
Ah.
On prend la monarchie et on en fait une vraie comédie qui n'a qu'une seule mission, être drôle. Et sur le papier, donc, comme tu as dit, c'est le genre de pitch qui me plaît carrément. Donc, c'est avec un vrai enthousiasme que j'ai démarré. Mais rapidement, je suis redescendu parce que la série a peu d'ambition. C'est très cheap. Aïe. Pourtant, il y a 2-3 bonnes idées, mais tout est vraiment caricatural. Il y a l'ado concon, donc qui est le roi, le gay un peu excentrique, le cardinal qui manigance des trucs. En fait, tout ça, c'est du vu et du revu, du réchauffé. Mmh. Ça n'a pas vraiment... c'est pas très frais. Il y a peut-être Samia, la mère du roi, qui est le personnage le plus intéressant et qui est clairement l'héroïne de l'histoire, plus que son roi, plus que son fils. Mais il y a bien une sous-intrigue de Révolution naissante qui essaye d'apporter un peu d'enjeu, mais ça prend jamais vraiment. En fait, je comprends pas trop ce que cette série essaye de raconter, donc c'est plutôt dommage. Mais visuellement, ça n'a aucun projet. Le château qui a été trouvé pour faire une sorte de Versailles, il est cool, mais qui a géré les décors? C'est impossible que ce château ait la cour du roi depuis des centaines d'années. Enfin, c'est trop cracra. Et... Non, c'est vraiment dommage parce que l'idée était cool et c'est un peu un rendez-vous manqué pour Louis XVIII.
Déception.
On reste dans la monarchie?
Ah oui, on reste dans la royauté. Hein. On passe à Queen Charlotte. Après Louis XVIII, on a Queen Charlotte.
Oui.
C'est une nouvelle série qui est sortie le 4 mai. C'était la saison 1, on est vu tout d'un coup, 8 épisodes d'environ 65 minutes et c'est dispo sur Netflix. Promise au roi d'Angleterre, contre son gré, Charlotte arrive à Londres et découvre que la famille royale n'est pas ce qu'elle imaginait. Le temps aidant, la jeune fille trouve ses marques au sein du palais, entre l'étiquette et son imprévisible mari. Malgré les difficultés, Charlotte et en passe de devenir l'une des monarques les plus incontournables d'Europe. C'est un spin-off de la... ils disent la chronique de Bridgerton. Moi, c'est les chroniques de Bridgerton, mais bon, passons. Axé sur les jeunes années de la reine Charlotte. Mmh. Ouais. Alors, j'étais pas très enthousiaste parce que la saison 2 de Bridgerton, moi, je l'avais pas vraiment aimée. Je m'étais plutôt ennuyée. J'en entendais rien de particulier de cette série. Il y a du positif et il y a du négatif. On va commencer par le négatif. Comme ça, allez, ça sera fait, tu vois. Ça sera fait.
On finira alors sur une note positive.
Les scènes de viol à répétition.
Ah !
C'est pas possible.
Oh là là.
Alors, ok, il y a une des protagonistes qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas, bien évidemment. Hein, et il la viole quand il a envie d'elle, tu vois.
Oh purée.
Et c'est pas parce que la scène est filmée de façon amusante que c'est drôle.
Ah, ah, parce qu'en plus on fait des blagues dessus.
Bah pas des blagues, mais tu vois, genre en fait ils font un gros plan de sa tête à elle, et tu la vois qui, tu sais, elle bouge et elle scotte la tête contre le mur, tu vois. Ou alors tu la regardes qui regarde le plafond et tu vois le plafond qui bouge, tu vois.
Mais ça, c'est voilà, une scène de viol, donc c'est pas drôle.
Oui, voilà, c'est pas drôle. C'est parce que, en fait, le mec, il couche avec et il lui laisse pas le choix, ou elle le fait alors qu'elle en a pas envie. Enfin, dans tous les cas, c'est pas drôle. Et c'était vraiment pas utile, ni la première fois, ni le je sais pas combien de fois. Parce que ça arrive pas une fois, ça arrive tout au long de la série, vraiment. Okay. C'est trop. Vraiment, stop. C'était vraiment pas nécessaire. Charlotte, donc notre reine, qui refuse d'épouser un roi qu'elle ne connaît pas, c'est plutôt normal jusqu'à là, jusqu'au moment où elle le voit, et du coup il est beau.
Ah !
Et du coup, être plaisant visuellement, apparemment, ça fait que tu peux épouser quelqu'un que tu connais pas. Alors je le rappelle, être plaisant visuellement ne fait pas de toi une bonne personne. Hein ?
C'est vrai.
Et je comprends pas.
Contrairement à ce qu'on pense.
Je comprends pas comment voir 3 secondes quelqu'un peut faire que finalement on accepte de se marier avec.
Bah c'est très bas de plafond comme écriture, c'est un peu méprisant pour les femmes en disant oh bah s'il est beau, bah je vais me marier. Ça
en
veut
fait,
dire que tu cherches pas.
Il y a vraiment un problème de romantisation dans la série, mais c'était déjà le cas dans les autres Bridgerton, mais là il y a un problème de romantisation, du mariage forcé, et je trouve ça vraiment dégradant.
Ouais.
Et mal fait en fait, parce que par rapport à la personnalité de Charlotte, c'est petit. Donc ça c'est les points négatifs, et il y en a d'autres. Et en fait il y a des points négatifs qui entraînent des points positifs. C'est très chelou, mais typiquement un point négatif, c'est que la reine, on la voit quand elle est jeune et on la voit aussi à l'heure actuelle, quand elle est vieille, enfin, quand elle est normale, tu vois, quand elle a plus de 50 ans et qu'elle est sur le trône depuis très longtemps. Et là, tu la vois avec ses enfants et ses petits-enfants et en fait, elle veut un héritier. Elle a fait genre 13 enfants, je crois. Et ses 13 enfants n'ont pas d'héritier. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'héritier au trône. Et donc, elle les oblige à faire des héritiers. Elle les prend dans une pièce, elle leur dit « Maintenant, vous allez me faire un héritier !» Elle dit ça alors que il y a une scène avant, on se rend compte qu'il y a une des femmes qui attendait un héritier qui est décédée. Donc il y a un de ses fils qui pleure une de ses filles. Donc c'est horrible. Et en plus de ça, bah c'est sur le coup on est en mode bah oui mais tu peux pas obliger les gens à faire des enfants, c'est n'importe quoi, dadada. Donc ça c'est tout le point négatif. Et en fait ils ont entraîné ça en un point positif parce qu'il y a une conversation à un moment dans la série où il y a un de ses fils qui lui dit « Mais maman, vous ne savez pas tout ce qu'on est... On essaie de faire des enfants et de vous satisfaire depuis des années, mais le nombre de mes sœurs qui ont fait des fausses couches et tout ça. » En mode, voilà. Donc, ils parlent d'un point... Enfin, ils parlent de quelque chose d'important en servant de trucs négatifs. Je sais pas comment me dépatouiller de cette histoire, mais...
C'est pas si pire.
C'est vraiment bizarre. Bon, on va passer quand même au positif. Il y en a quelques-uns. Ça essaie de parler du traitement de la maladie mentale de façon plutôt bienveillante. Est-ce que c'est bien fait ou mal fait? Je sais pas. Mais ça essaie. Tu vois, je prends des pincettes, vraiment. Les décors et les costumes sont toujours éblouissants. La musique est toujours aussi agréable. C'est trop, trop cool.
Il y a toujours la musique comme dans Bridgerton.
Oui, c'est les musiques comme ça revisitées. Je
c'est
trouve ça trop bien.
C'est vraiment une trop bonne idée, ça.
On essaie de raconter une histoire d'amour qui dure malgré la maladie mentale du roi. Et ça, c'est plutôt quelque chose que je trouve positif. Si on oublie le fait que ces deux personnages ont été obligés de se marier sans un enfant.
Oui, après, ça, j'imagine que c'est parce que dans la vraie vie, ça s'est passé comme ça.
Oui. Donc, mais si tu oublies ce côté ils ont été obligés de se marier et tout ça, leur relation romantique est plutôt belle. Ils s'aiment même si George, du coup le roi, n'est pas toujours lui-même. Et il reste Charlotte est un peu son ancrage en fait pour lui. Ils arrivent à se comprendre même quand ils se voient pas depuis plusieurs longtemps. Enfin, ils ont vraiment une relation très très belle quand même. Donc ça c'est positif. Et il y a vraiment un passage que j'ai adoré. Je peux rien dire là-dessus. Il y a un moment où tu vois du coup Lady Dunbury et Lady Bridgerton qui sont adultes, donc qui ont toutes les deux plus de 50 ans, qui sont mamans. Et en fait, Lady Bridgerton a perdu son mari au début de la saison 1, il me semble. Et en fait, elle avoue à Lady Dunbury qu'elle a un appétit sexuel, que malgré le fait que son mari est décédé, elle ressent un appétit sexuel. Elle s'en veut pour ça. Mais elle le ressent. Et du coup, je l'ai trouvé ça super intéressant de voir des femmes de plus de 50 ans parler de leur sexualité. C'est des choses qu'on ne voit pas énormément à l'écran. Parce que oui, la sexualité, ce n'est pas que pour les jeunes. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Et toute cette partie-là m'a vraiment... leur amitié entre toutes les deux et cette partie-là, j'ai vraiment trouvé ça trop bien.
Ouais, je comprends.
Et après, je crois que j'ai préféré cette série à la saison 2 de Bridgerton, mais mon avis sur celle-ci est vraiment mitigé. Il y a des bons côtés, des trucs cool, des trucs qui m'ont saoulé. Voilà, je suis mitigée. C'est vraiment le plus gros résumé de cette série, je suis mitigée.
Ça a l'air. En tout cas, t'as bien retranscrit ton mitigage. Mitigage. Allez, on va enchaîner en écoutant une bande-annonce...
Je t'aime, ma puce.
Je t'aime, mon enfant.
J'ai de fortes suspicions d'un trouble du spectre de l'autisme niveau 1 pour Guilhem.
Ah, mais ça se soigne?
Non, parce que c'est pas une maladie.
Ok, on aurait dit.
Les autistes vont avoir du mal à comprendre les différents codes sociaux.
Arthur Lemonial, enquêteur social, on a rendez-vous à 11h.
Il est 10h53.
C'est des personnes souvent hypersensibles qui vont avoir du mal à lire les émotions sur un visage.
Moi aussi, peut-être, je suis.
Oui, très probablement.
Je veux pas être autiste. Tout le monde me traite de taré maintenant.
Je dois m'assurer que Guilhem ait un cadre adapté. Donc je dois rencontrer toutes les personnes de son entourage et faire une recommandation sur où il doit vivre.
Vous voulez dire que Guilhem va plus vivre avec moi?
Louison et moi, on est prêts, on peut tout à fait s'occuper de notre fils.
Vous êtes ensemble?
Oh, oui.
Enfin, j'arrive pas à comprendre Guilhem.
Guilhem serait plus à sa place dans un établissement adapté.
Dégage, Cassos.
J'ai perdu mes amis, mon école et papa à cause de toi.
Si je reste avec toi, on va perdre la garde de Guilhem tous les deux.
Vous voulez toujours que nous, on s'adapte. Mais peut-être que si Guilhem, il est différent, c'est parce qu'il est exceptionnel. Et je suis exceptionnelle.
Le but avec les neurotypiques, c'est pas de se faire comprendre. C'est de se faire aimer.
Louison, c'est la seule qui peut élever Guilhem, vous le savez. On n'a pas à avoir honte. On n'a pas à se cacher. Même si on est une famille atypique, on est une famille quand même.
C'était moi qui faisais...
Rien que d'entendre cette bande-annonce, ça fout.
Oui, ça fait remonter plein de souvenirs et d'émotions. Il s'agit de Asperger, la saison 1, qui compte 10 épisodes de 18 minutes. C'était sorti le 6 avril 2023 sur OCS. Et ça parle, comme le dit la bande-annonce, de Louison, 38 ans, mère célibataire, récemment séparée, qui découvre qu'elle présente un trouble du spectre de l'autisme lorsqu'on diagnostique son fils Guilhem, 11 ans, À peine se sent-elle libérée par cette révélation qu'une enquête sociale démarre pour savoir si elle doit conserver la garde de son enfant. Louison décide alors d'apparaître la plus normale possible aux yeux de l'enquêteur social, mais ni elle ni sa famille ne sait vraiment ce qu'être normal signifie. Pouf. C'est, je crois, une de mes séries préférées de l'année, c'est sûr. Peut-être même une de mes séries préférées tout court. C'est un coup de cœur incroyable. Une série qu'on avait aussi découvert à Sérimania.
Les 4 premiers épisodes.
Ouais. Oui. Et c'était fantastiquement drôle et émouvant.
Ouais, trop bonne expérience.
Oui. Je mets quand même une réserve, c'est que je parle avec mes yeux de neurotypique. Enfin, avec mon existence de neurotypique. Et donc, à travers mon regard, pour moi, il n'y a aucun faux pas dans cette série. C'est peut-être très discutable, mais en tout cas, un faux pas.
Il n'y a pas de personne neuroatypique dedans. À part les acteurs, quand elle est en thérapie de groupe vers la fin.
Exact.
Je crois qu'eux sont vraiment neuroatypiques. Sinon, j'avais entendu qu'en état Sérimania, il y avait une dame qui était dans la salle avec nous lors de la projection qui disait qu'elle avait postulé. Elle s'était proposée pour le rôle. Et du coup, elle était déçue que ce ne soit pas une personne neuroatypique qui joue le personnage principal.
Quoi qu'il en soit, la série essaie de quand même faire passer des messages et de mettre en lumière l'autisme.
Oui, non, je dis pas ça. Après, c'est juste que comparé à l'autre série qu'on a vue, par exemple, en cours à Sérimania, comment elle s'appelait ?
Ah oui.
La
série avec des personnes handicapées.
Oui, et qui était incroyable, et qui, du coup, les acteurs étaient vraiment des personnes à mobilité réduite et qui avaient des handicaps. On est sur deux niveaux de... En fait, c'est peut-être le côté un peu français encore qui bloque là-dessus, ou je sais pas.
C'est vrai. En tout cas, cette série, elle est vraiment très bien écrite. Les épisodes sont drôles et émouvants, on l'a déjà dit. La musique...
Incroyable.
La musique, on l'a entendu dans la bande-annonce. La musique...
Il reste bloqué sur la musique. Mais en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que cette musique, en fait, quand on était à Sérimania, avant les projections, il y avait une playlist qui passait.
Ouais.
Et il y avait deux chansons de la bande-son de Asper Girl qui étaient dans la playlist. Et en fait, on ne les avait pas encore entendues dans la série. Du coup, nous, on connaissait déjà la musique avant d'avoir vu les épisodes où la musique apparaissait. Et c'était incroyable parce qu'on voulait savoir d'où venait cette musique. Et que personne ne nous disait rien parce que la série n'était pas sortie.
Après, on savait que ça venait de cette série parce que j'avais vu que c'était Olivia Merilati qui avait composé la musique de Asper Girl. Et dans les chansons, dans les cinémas, je reconnaissais évidemment sa voix parce que j'aime beaucoup The Do et son projet perso Prudence. Donc, on savait qu'il y avait un lien. Mais on n'arrivait pas à l'écouter
vu que l'album n'était pas sorti. En fait,
mais maintenant, c'est dispo.
Maintenant, c'est dispo sur Spotify ou partout.
Donc, on l'écoute en boucle.
Oui.
Dans cette série, il y a aussi l'image qui est très jolie, très soignée tout le temps.
Oui, il y a pas mal de jeux de lumière arc-en-ciel. Oui. On en avait déjà un peu parlé dans notre épisode spécial sur Sérimania. Des fois, par exemple, quand on est dans le cabinet de la psychologue... on va avoir des jeux arc-en-ciel ou des choses comme ça qui rappellent le spectre, en fait, qui nous rappelle le spectre de l'autisme et tout ça. Et c'est bien fait. Enfin, moi, je trouve ça bien. Et j'avoue que les moments où elle est en thérapie, où elle rencontre d'autres personnes autistes, et tout ça est vraiment aussi super... je sais pas, ça m'a vraiment énormément émue. Et vraiment, le final m'a brisé le cœur. On va pas, pas se mentir. J'en pouvais plus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, de mon cœur. Ah, la série qui fait mal.
Et point qu'on n'a pas abordé, qui se révèle un peu plus tard dans la série, Louison serait vraisemblablement bisexuelle, elle aussi.
Oui, aussi. Voilà. Ce qui montre encore une fois que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas être homosexuel ou bisexuel. En gros, tu peux... Enfin, il y a plein de gens, en fait, qui... Tu vois, qu'on a été à la Pride la dernière fois, il y avait un peu ce truc-là de... Pourquoi il y a des personnes en fauteuil roulant qui défilent pendant la Pride?
Oui, là, ça parle d'inclusion et...
Bon, en fait, l'inclusion, c'est pas que ce que t'as envie, c'est tout.
Et ça raconte aussi que les personnes neuroatypiques ont aussi une vie sexuelle et une vie sentimentale.
Ouais. Des choses qui passent souvent à la trappe.
C'est vrai. Donc, enfin... C'est vraiment une super série. Peut-être que, comme on en a déjà parlé dans l'épisode de Série Mania, on va peut-être pas s'attarder dessus, mais ça fait déjà un moment qu'on en parle.
Je l'ai.
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. On espère vraiment qu'il y aura une suite. Voilou.
Wolf Pact.
Tu l'envoies vraiment comme ça.
Non, je sais pas. Ouais, j'ai regardé Wolf Pact. Alors, j'ai envie de dire Pact, mais en fait, Wolf Pact, c'est un autre film. Ça n'a rien à voir.
Ah.
Surtout que là, c'est une série, c'est Wolf Pact. C'est sorti le 26 janvier 2023. J'ai regardé la saison 1 qui comptait 8 épisodes d'environ 51 minutes. Pourquoi 51 n'est pas 50, on ne sait pas. Sur Paramount+, j'ai testé. J'ai fait les jours gratuits pour regarder
bien.
Cette série. Et bah, tu sais quoi, l'appli, elle est mieux que Prime Video.
Mais en même temps, tout est mieux que Prime Video.
Alors, cette série nous parle de Everett et Blake qui voient leur vie changer à jamais après qu'un feu de forêt en Californie ait réveillé une créature surnaturelle terrifiante. Blessés, les adolescents sont inexplicablement attirés l'un par l'autre et par deux autres, les faux jumeaux Harlan et Luna, qui ont été adoptés 16 ans plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux incendie de forêt. Alors que la pleine lune se lève, les quatre adolescents se réunissent pour percer le secret qui les relie, la morsure et le sang d'un loup-garou.
Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations dans
oh
ce résumé.
Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a 1000 intrigues.
Non mais en vrai, j'ai eu un gros flash. En début de mois, je me suis rappelé que cette série devait sortir en janvier, que j'avais dû en parler en décembre dans le récapito. Et bah, je me suis dit, allons la voir. Alors, la voici. On est dans une version plus sombre, voire parfois horrifique, d'une série ado. Et c'est plutôt bien. C'est vachement bien fait. C'était la surprise. Il y a l'ambiance de l'incendie, vraiment, qui est présente tout le temps, qui te met déjà dans un mood un peu particulier. Il y a la panique autour de l'incendie. Et en même temps, il y a ce côté surnaturel, presque horreur. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. J'ai souvent sursauté, j'ai souvent eu peur. Mais j'ai apprécié la série, donc c'était plutôt pas mal. Les acteurs jouent vraiment bien pour des ados, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les séries adolescentes.
Est-ce que c'est des vrais ados déjà
Ou ouais.
Alors c'est des ados de 35 ans.
Non, c'est des vrais ados. C'est des vrais ados. Et il n'y a pas énormément d'effets visuels parce qu'au final, on voit rarement ce fameux loup-garou. Et les ados qui... eux-mêmes et le reste de la mode, donc les quatre ados, en fait, des fois, vont avoir les yeux qui brillent ou ils vont s'énerver, ils vont montrer les crocs, tu vois. Mais ça reste des effets...
pratiques.
Ouais, c'est des
modestes.
Effets simples, en fait, mais ils ne se transforment pas en entier comme des loups, tu vois. Mais au final, ça marche plutôt bien. Y a tout ce côté, moi je dis, les portes qui claquent, les très psychologique aussi, qu'est-ce que ça fait d'avoir été mordu psychologiquement? Tu vas entendre des voix, tu vas être relié aux autres, tu entends ce que les autres pensent. Enfin, c'est vraiment plus... c'est très marrant, c'est vraiment... devenir loup-garou psychologiquement, qu'est-ce que ça fait? Tu vois,
t'as
c'est...
pas l'air jojo.
Ça fait peur. mais c'était vraiment pas mal du tout. J'aime que cette série tourne autour d'une histoire de famille surnaturelle en mode thriller. C'est vraiment ça, en fait, l'histoire. C'est une histoire de famille, une famille de loups-garous. C'est l'histoire d'une famille surnaturelle. Et en même temps, c'est thriller. Que va-t-il se passer? Qui est le monstre? Qui est le gentil? Qui est le méchant?
C'est un Cluedo.
Et puis, il y a quand même Sarah Michelle Gellar dedans. Comme ça. Pépouze. Et c'est vraiment sacrément cool. Vraiment, elle est trop bien dedans. Regardez. Même si personne n'a dû regarder cette série, mais...
voilà. On sait pas.
Quelle déception. On peut parler d'une série nulle, maintenant ?
Oh, ça dénonce.
Bah déjà le titre, on va pas se mentir, quand le titre de la série c'est L'été où je suis devenue jolie, ça fait mal. C'était sorti le 16 juin 2022, j'ai regardé la saison 1 sur Prime Video, vous allez me dire pourquoi, je vais vous expliquer. ça parle d'Isabelle Belly, alors apparemment la traduction de Belly en anglais ça veut dire ventre.
Ah cool,
ouais,
bah,
ça commence bien.
Le ton est donné.
Ah, attendez, maintenant j'ai envie de vérifier. C'est une info qu'on m'a donnée. Alors, si c'est pas ça, je vais tirer des oreilles. Allez. La Belly. Belly. Ah là, c'est ventre, c'est ça. C'est une bedaine, si tu veux même. C'est la bedaine. Quel surnom très sympathique. Isabelle, alias Belly, passe ses étés à Cousin Beach avec sa mère et son frère aîné, ainsi que la meilleure amie de sa mère et ses deux fils. Au cours d'un été bien précis, elle va connaître son premier amour, mais aussi sa première peine de cœur.
Oh, chaton.
Alors, bah, j'ai voulu regarder cette série pour comparer au livre du même nom de Jenny Han. Alors, Jenny Han, l'autrice de « À tous les garçons que j'ai aimés », vous voyez, tout est lié. Un petit ouh, incroyable. Malheureusement, je ne vous conseille pas de lire L'été où je suis devenue jolie. Vraiment pas. Moi, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu. Parce que je pense qu'à lire, ça doit être... j'aurais abandonné. Mais au moins, écouter, j'avais l'impression d'écouter un peu une série audio un peu pourrave. Vraiment. Mais des fois, je m'énervais toute seule dans la rue, je marchais et je me disais, mais elle ne peut pas dire ça de sa meilleure amie, c'est tellement méchant. Tu vois, bah, on en était là. Le livre est horrible. Et du coup, je voulais savoir si la série était un petit peu mieux parce que l'adaptation datait de 2022 alors que le livre date d'il y a plus longtemps. Heureusement, c'est mieux. Je vous rassure, ou peut-être pas, remarquez. L'adaptation série est un chouïa mieux, moins sexiste, un petit peu moins macho. Donc, il y a du mieux. Mais au niveau de l'histoire, on est sur les mêmes grandes lignes, sauf que dans le bouquin, ça... t'as des différences de timeline, alors que dans la série, ils n'ont pas voulu s'emmerder à prendre des acteurs de différents âges, donc tout se passe la même année.
Okay.
On ne va pas se prendre la tête quand même, hein. Faut pas exagérer. Voilà. Et puis le titre est dégueulasse, mais vraiment pour résumer, en gros, c'est une meuf, elle aime, elle aime un des fils des meilleurs amis de sa mère. Ils passent tout leur été ensemble depuis qu'ils sont jeunes. Les deux frères sont horribles avec elle parce que c'est une meuf. Eux, ils font un boys club et ils n'arrêtent pas de la jarter tout le temps. Ils l'appellent Belly parce qu'elle a une bedaine. Parce que voilà, Belly la bedaine. Et elle a une meilleure amie, mais elle n'est pas du tout sympa avec elle. Elle n'arrête pas d'être vraiment méchante. Genre, non, mais tout le monde la regarde, mais elle est moche, elle est trop sconne. Enfin, tu vois, le jour où quelqu'un parle comme ça de sa meilleure amie, mais ne
soit
pas
meilleure
amie.
Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis.
C'est un peu ça. Et puis la seule chose qui intéresse Belly, apparemment, c'est que quand elle a eu 15 ans, elle est devenue jolie. Hein. Alors tous les mecs se sont mis à la regarder. Et quand elle va au karting et qu'elle demande la voiture rouge, la voiture bleue au mec et qu'il lui dit avec un visage comme le tien, je te filerai même les clés de ma bagnole. Elle prend ça pour un compliment.
Oh là là.
Non mais vous voyez, c'est horrible. Vraiment. La littérature ado, il y a quelques années, c'était vraiment abominable. Voilà, je vous conseille pas de regarder. Il y aura une saison 2 de ce truc, par contre. Hein.
Aïe.
Il y a 3 livres. Je vais pas lire la suite.
Purée. On va enchaîner avec les films sans plus attendre. Je vais commencer avec un film qui est sorti en 2014 qui s'appelle John Wick, qui dure 1h41 et qui est dispo sur Prime Video. C'est réalisé par Chad Stahelski et c'est avec Keanu Reeves. Depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick passe ses journées à retaper sa Ford Mustang avec pour seule compagnie sa chienne Daisy. Il mène une vie sans histoire jusqu'à ce qu'un malfrat sadique nommé Yosef Tarasov regarde sa voiture. John refuse de la lui vendre. Yosef, n'acceptant pas qu'on lui résiste, s'introduit chez John avec deux complices pour voler la Mustang et tue sauvagement Daisy.
Bah non.
Bah si.
Bah non.
Il a tué la petite chienne. Il était temps que je rattrape cette série de films qui est devenue l'une des licences les plus efficaces des années 2010. Et j'ai malheureusement dû me chauffer un peu trop parce que
j'étais un peu déçu.
Ah bon? Oui. Ah bah tiens, c'est pourtant l'histoire de quelqu'un qui décide de tuer tout le monde parce qu'on a tué son chien.
Mais c'est pas...
C'est pas ça l'histoire?
Si, l'histoire c'est ça.
Oh, il y a Matrix dedans.
Il y a Matrix.
Il y a Neo.
Il y a Matrix.
Neo, qu'est-ce que fais-tu là?
Bah, c'est Keanu Reeves. Et si tu veux aller au bout de... Il y a Matrix, Chad Stahelski est le directeur des... Comment on dit? Le directeur des bagarres.
Cascadeur, il y a marqué.
Il est cascadeur et c'est lui qui était chorégraphe, chorégraphe des bagarres sur Matrix.
Mais incroyable, tout est lié.
Et oui.
Le monde n'est qu'un.
Et donc en fait c'est pas tant le scénario parce qu'il est très simple, il tient sur un mouchoir mais tout fonctionne, c'est plutôt la faute à un budget limité qui contraint la générosité du film. On sent que le film a envie d'en...
2014 aussi hein.
Oui, mais surtout en fait on voit bien que c'est un film qui a pas beaucoup d'argent, il a envie de faire plein de choses mais le budget le bloque. Donc c'est pour ça que c'est un tout petit peu en deçà de ce que j'espérais. Pourtant, il y a des super choses dans ce film. Il y a un lore qui entoure l'univers qui est vraiment bien. Ça m'a fait penser un peu à Kingsman, mais un Kingsman pour les méchants.
D'accord.
C'est pas la faute de Keanu Reeves non plus qui est vraiment super. Les chorégraphies qu'il fait sont hyper bien. Apparemment, il a appris à tirer avec un vrai pistolet pour le film. C'est pas la faute non plus à la réalisation qui est très efficace, mais comme je le dis, c'est vraiment la faute du budget. Il y a aussi une histoire de chien dans ce film, donc c'est très compliqué à regarder avec Slow.
Ah bon ?
Et je vous avoue que même si mon cœur a été dévasté quand la petite chienne est tuée, j'étais soulagé parce qu'on n'allait plus entendre de chien aboyer, donc j'allais pouvoir regarder le film tranquillement.
Mais c'est horrible ce que tu dis.
C'est vrai, j'ai pas de cœur. Il y a un autre truc qui me chagrine beaucoup là pour le coup, c'est que c'est un film de mecs, pour des mecs, par des mecs, avec que des mecs.
Ah bah
je crois qu'il y a deux filles dans le film, dont la femme de Keanu Reeves qui est morte.
On parle de 2014 quand même.
Oui oui, donc c'est avant Me Too, c'est avant tout ça. Mais c'est pour ça que je laisse sa chance aux suites. Parce qu'il y a trois films qui sont sortis depuis, dont un au cinéma il n'y a pas longtemps. J'ai très hâte de voir la suite parce que je me dis quand même que cette série de films n'a pas volé sa réputation. Donc on verra bien, je vous en parlerai dans les prochains récapitos.
Il n'y aura plus de petits chiens au moins.
Si, il y aura des petits chiens parce qu'à la fin du film, il adopte un autre petit chien.
Mais du coup, elle n'est pas du tout contente.
Elle est jalouse.
Alors moi, je vais parler de Dragon Génie.
Je ne connais pas
C'est
du
un
tout.
Film qui est sorti en 2021. Il fait 1h39. Il est dispo sur Netflix. C'est un film d'animation. C'est réalisé par Chris Appellhans. Ça parle de Dean, un étudiant ambitieux, mais sans le sou.
Le résumé a été écrit.
Et Lang, un dragon cynique mais tout puissant, capable d'exaucer des vœux, qui se lance dans une aventure délirante à travers le Shanghai d'aujourd'hui à la recherche de Lina, une amie d'enfance que Dean n'a pas revue depuis longtemps. Leur périple les conduira à se poser certaines questions existentielles, car si l'on peut obtenir tout ce que l'on souhaite, il faut alors déterminer ce qui compte réellement.
J'ai rien compris.
Alors c'est un peu... Il y a un garçon, il a une meilleure amie, et cette meilleure amie, elle déménage. Et elle devient très 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 riche.
Ah.
Et Dean, lui, il est toujours très 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 pauvre. du coup, il ne se voit plus. Et un jour, Dean trouve... une soupière, enfin un espèce de truc un qui saladier. Frotte, et il y a un dragon qui sort, c'est un dragon génie, et le dragon génie, il exauce tes vœux. Et Dean, il fait le vœu de faire semblant d'être riche pour pouvoir aller voir sa meilleure
ça,
amie.
Ça, c'est Aladdin.
Voilà, c'est un peu le même, vraiment c'est un Aladdin, mais version dragon.
C'est vrai que le génie, j'avais pas réagi, mais c'est Aladdin aussi.
C'est trop ça, c'est vraiment ça. C'est un bon film d'animation, le rythme est bien, visuellement c'est beau, moi j'ai beaucoup aimé. On s'attache à Dean et Lina, qui sont les deux héros et héroïnes de ce film. Le dragon est super marrant, vraiment j'adore le dragon. C'est un vieux dragon, mais il est très marrant. Et bien évidemment, il y a une morale dans cette histoire. Hein. L'argent n'apporte pas le bonheur, la famille, les amis, et vivre avec eux, c'est le bonheur. Voilà, c'est un film très mignon, je vous le conseille.
D'accord. C'est de l'animation japonaise ?
C'est États-Unis et chinois. C'est d'accord. Columbia Pictures qui a fait. Voilà.
Ok.
J'ai vu un autre film, mais on va pas en parler. Hein.
Bah, c'est maintenant ou jamais.
Bah, c'était Peter Pan et Wendy. C'était nul.
Voilà.
J'ai pas compris le film. J'ai vraiment rien compris. J'ai cru que je pétais un plomb devant la télé ou que je m'étais droguée. Sauf que j'avais rien fait des deux. Du coup, j'ai vraiment... Et Maëly, c'était avec moi. Enfin, j'étais pas toute seule, donc c'était pas genre un problème. Non, le film, incompréhensible. Si vous le voyez, dites-moi, moi j'ai rien compris, c'était nul.
Je le regarderai.
C'est sur Disney+.
Et on en parlera le mois prochain.
Voilà, on va faire ça.
On va maintenant parler des documentaires. Je vais commencer à parler d'un documentaire qui s'appelle « Et Dieu créa Barbie » qui est sorti en avril 2023 et dure 1h26. Et c'est sur France.tv, c'est créé par Julie Delettre et Gabriel Garcia. Je pense que le documentaire sort maintenant pour surfer sur la sortie du film qui arrive cet été. Et donc, ce documentaire retrace la naissance de la célèbre poupée et de son impact sur la culture populaire. Du modèle patriarcal de femme au foyer jusqu'à icône d'inclusion, le documentaire relate à peu près toute l'histoire de Barbie. Ce que j'ai aimé, c'est que plusieurs personnes témoignent de leur attachement et de l'image qu'elles ont de Barbie. Et ce qui est cocasse et amusant, c'est qu'en fait, il y a deux écoles. Il y a vraiment les personnes qui voient en Barbie une icône sexy à laquelle toutes les petites filles rêvent de ressembler et qui auraient dû rester ce corps fantasmé inaccessible. Parce que le documentaire précise que vers... il n'y a pas si longtemps, j'ai plus la date, mais il n'y a pas si longtemps, Barbie, le corps de Barbie a changé. Elle est un peu plus petite, elle a un peu plus de forme. Enfin, elle ressemble plus à un corps...
À une dame.
À un corps humain traditionnel, entre guillemets, on va dire. Et il y a d'un autre côté, des personnes qui... voit en Barbie une icône féministe, mais quand même capitaliste. Il faut pas perdre ça de vue. C'est que Barbie est féministe, mais parce que ça sert des intérêts économiques, évidemment. En gros, on pourrait dire qu'il y a les personnes qui politisent Barbie et celles qui s'y refusent, et vraiment qui le disent. Je te laisse deviner dans quelle catégorie je me situe.
Les politisations.
Bah oui, voyons. Voilà. Non, c'était un bon documentaire en vrai. C'était plutôt pas mal.
Et moi, je continue avec les féministes.
On aurait pu dire que Barbie est une queen aussi.
Oui, Barbie est une queen. Oui. Alors moi, je continue avec une autre queen, la reine Cléopâtre. C'est une série documentaire qui est sortie le 10 mai 2023 sur Netflix. Il y a 4 épisodes de 45 minutes.
Ce serait pire qu'un animé.
C'est dispo sur Netflix. Pour résumer, du coup, ça nous parle de, bien évidemment, la dernière pharaon d'Égypte, Cléopâtre, lutte pour défendre son trône, sa famille et son œuvre. Un documentaire fondé sur des reconstitutions et des interviews d'experts. Vous avez peut-être entendu parler de ce documentaire, oui. Malheureusement.
Pour des mauvaises raisons.
Alors, je ne vais pas en parler. Je vais pas parler de ces raisons-là.
Okay.
Moi, je vais vous parler du documentaire. on pourrait dire que ce programme est une série documentaire. Du coup, comme je le disais le résumé, il y a des bouts de reconstitution avec des acteurs et des passages où il y a des spécialistes et spécialistes, historiens, historiennes et sociologues. Ouais. Qui décryptent les différents faits et les différentes époques et tout ça, la famille et tout. Et c'était vraiment ultra intéressant. Il me reste une petite partie à voir, un peu moins d'un épisode, mais ce programme, vraiment, il m'a fascinée. J'ai appris des tonnes de trucs et je me suis surtout rendu compte qu'en fait, écrire la trame de Game of Thrones, ça devait pas être si compliqué si on connaissait l'histoire de Cléopâtre. parce que vraiment, on est à ça. C'est une poussière. On a une poussière. Ce que je veux dire, c'est que cette Cléopâtre a une vie incroyable. C'est des rebondissements de folie. C'est des frères et sœurs qui essaient de la tuer. Des frères et sœurs, des frères qui sont également ses époux, qu'elle a fini par tuer. Enfin, vraiment, c'est... Moi, je sais pas quoi dire. Je suis bluffée. Et ça, c'est genre une minute de l'histoire, tu vois. Il y a tellement plus. C'est tellement incroyable tout ce qu'elle a fait pour l'Égypte. C'était quand elle était pharaon, c'était un des pays les plus prospères du monde, en fait. Elle a vraiment rendu son pays énorme. Il est devenu énormément prospère pendant son règne. Donc moi, il me reste un petit bout, donc je ne sais pas comment se finit l'histoire encore, mais c'est vraiment plutôt incroyable. Je pense que ce que j'en retiendrai de tout ça, c'est l'impact qu'a eu cette femme sur ce monde d'hommes. Mmh. Et c'était juste incroyable, en fait. À l'époque, le monde dans lequel elle vivait, c'était vraiment un monde d'hommes. Et elle était une des seules femmes qui régnait sur une partie de ce monde et qui avait un réel pouvoir. C'est incroyable. Rien que le fait que, genre, Jules César, il l'aimait. Parce que c'était une femme de pouvoir, parce que lui, les Romains et leurs femmes n'avaient aucun pouvoir. Mm. C'est complètement débile. Alors moi, j'ai un pays, les femmes, elles sont soumises, mais je vais aller dans un autre pays prendre une femme qui, elle n'est pas soumise, donc on pourra avoir des vraies discussions. Non mais sérieux pas du tout. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est incroyable. Regardez ce documentaire. Peu importe ce qu'on en dit, moi je le trouve trop bien. Je vois pas où est la polémique.
Le racisme. J'ai très envie de voir ce documentaire aussi. On va pouvoir enchaîner avec le sujet du mois.
Oui, oui, oui.
Et on va écouter la bande-annonce.
Heroes this week are the fraternity brothers of Lambda Chi Alpha. Oh! That's right, we're doing a frat house.
Ah! Oh! No! There's flies everywhere!
Call the shots, come show me what
you got. Welcome to New Orleans. Our mission this week is to teach this educator how to learn to love herself.
Do you have any like food hangups?
I don't like avocado.
I'm gonna try not to take that one personally.
Since they've been together, Rachel has seen Stephanie become a shell of her former, once confident self.
No!
Everybody check their toxic masculinity at the door. You get a makeover. You get a makeover. You get a makeover.
I don't know what you take, but I want some.
Stephanie!
I kind of looked myself in the mirror, started crying. Like I gotta live this way forever.
As men, you hold everything inside, and it just starts to eat away at you.
I really don't even know what I'm feeling half the time.
Are you ashamed of your homosexuality?
It has been very, very hard. In the inside, I wasn't very happy.
Okay. I've dried my eyes. Now let's go party.
Oh my God!
You have opened my soul.
This is arguably one of my biggest makeovers ever in Queer Eye history, honey.
I've never experienced a moment like this.
I've never felt so seen in my whole life.
Everyone wants to feel special. Everybody wants to feel loved.
Oh my God!
There's nothing better than a big gay gasp.
It's the gaspiest of gasps, frankly.
No one has ever made me cry like this on this f***ing TV show before.
Vous les avez reconnus, c'est Queer Eye, saison 7 qui est arrivée au mois de mai. J'ai pas oublié de mettre la date. J'ai oublié de mettre la date, donc je n'ai pas la date. C'est une série de télé-réalité, c'est le reboot de Queer Eye for the Straight Guy, créé par David Collins. Si vous ne connaissez pas Queer Eye...
Incroyable, ça serait vraiment très très embêtant.
Vous ratez une formidable série de télé-réalité. Le résumé est amusant. Sortez les mouchoirs.
Ah, c'est vrai, ils ont raison.
Oui, c'est vrai. 5 nouveaux experts aux frais... 5 nouveaux experts au fait de la mode avec beaucoup de savoir-faire et de franc-parler débarquent pour réaliser des relookings émouvants. Alors, relooking émouvant, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Hein.
J'aime bien le mot expert. 5 nouveaux experts.
Je crois que la version française, c'était The Queer, 5 experts dans le ventre, comme ça.
On les appelle la Dream Team.
Et Fab Five en VO, c'est plus stylé.
C'est quoi ?
Fab Five, comme les 5 fabuleux.
Ah, les 5 fabuleux.
Et les 5 fabuleux, ce sont Anthony Porowski, qui est l'expert en cuisine, Tan France, je ne savais pas que son nom de famille c'était France, c'est trop stylé, qui est l'expert mode, Karamo Brown, qui est l'expert culturel, Bobby Burke, qui est l'expert décoration, et Jonathan Van Ness, l'expert coiffure et soins.
Oh là là.
Cette saison 7 compte 7 épisodes de 50 minutes, et c'est beaucoup trop peu.
Ah oui, non mais en même temps, c'est beaucoup d'émotions.
C'est vraiment la chialade à chaque épisode.
Ouais.
Et on avait déjà eu le coup à la saison 6.
Je réfléchis s'il y a un épisode qui m'a plus marqué que les autres.
Cette année, il n'y a pas eu d'épisode vraiment déchirant. L'année dernière, enfin la saison 6, je me rappelle qu'il y en avait eu. Mais là, on chiale quand même tout le temps. Peut-être, j'ai oublié son nom, la personne gay qui vit avec sa copine
qui a
subi des actes homophobes un peu vénères et qui l'ont détruite mentalement. Ouais. Celui-là était vraiment très dur.
Oh, l'épisode aussi avec les jeunes de la fac, de la soirée.
Celui-là, il n'était pas triste, il était beau.
Ah, moi, il m'a fait pleurer de ouf.
Oui, ben, on pleure à chaque fois, mais il était beau, celui-là.
Celui avec le garçon en fauteuil paralysé dans un accident de voiture. Il était trop dur.
Il était dur. Mais voilà,
Et le dernier était très bien. J'ai adoré le dernier. Le dernier épisode avec le fermier était incroyable.
Ouais.
C'est pas un fermier, hein. Arrêtez, écoutez pas ce que je dis.
C'était un mec qui cultive des trucs.
Dans une association.
Dans une asso.
Mais vraiment, j'ai adoré cet épisode. C'était peut-être le moins triste de tous.
J'ai pas pleuré.
Mais il m'a rendu joyeux. Et c'était peut-être ça la finalité.
Non, mais c'est bien.
Et puis, on a toujours envie de manger, on a envie d'aller chez le coiffeur, on a envie d'aller chiner, on a envie de redécorer la maison, enfin... Que de bonnes idées.
Moi, j'ai pas envie de faire tout ça. J'ai envie qu'ils viennent faire tout ça avec
D'ailleurs,
moi.
D'ailleurs, si vous entendez parler d'un casting qui fait que queer... Après, ils viendront pas chez nous.
On n'est pas assez.
On n'est pas assez malheureux.
On ne se laisse pas assez aller. On n'est pas assez malheureux. On n'a pas de trauma.
Je vais arrêter de jeter mes mouchoirs. Je vais les laisser là. Oui, non, mais parce que j'avoue que cette saison, par contre, un truc qui m'a vraiment étonnée, c'est l'état des maisons des gens. Alors, il y avait les gens de la fac où on était vraiment dans un...
C'était
la
horrible.
Maison était abominable, crac, vraiment,
horrible.
On était somnome. Mais il y avait également la dame qui avait tous ces trucs de sport, là aussi, qui entassait. Alors, c'était pas terrible. Il y avait le gars, le fermier, il faisait du jardinage dans sa maison, apparemment, c'était abominable aussi.
Bah, il jette rien.
Donc, en vrai, les gens, ils étaient plutôt crado dans cette saison. Mmh. C'est ce que j'ai retenu.
La Nouvelle-Orléans est peut-être cracra.
Oui.
Ce que moi j'aime vraiment plus que tout dans cette série, c'est la bienveillance.
Oui.
C'est une série qui dégueule de bienveillance et d'amour. Il n'y a jamais, jamais, jamais aucune critique. Et ça, c'est ce qu'on répète à chaque fois qu'on conseille cette série à nos proches. C'est de dire, contrairement à des séries, des émissions de relooking en France... avec des dames qui viennent du Brésil par exemple qui te diraient alors toi t'as un corps en W donc il faut que tu mettes que des chemises à rayures verticales parce que sinon ça te grossit
les points non merci
et les carrés encore moins et ben là
il faut des triangles inversés madame
et ben là c'est plutôt vraiment l'écoute de soi qui prime Tan en l'occurrence ne dira jamais comment s'habiller par rapport à sa morphologie. Il va plutôt essayer de mettre en valeur toutes les belles choses qu'on a en soi. Et si on n'aime pas un vêtement, même s'il nous va bien, il dira bah t'aimes pas,
t'aimes pas.
Ok, on change. Et c'est ça qui est beaucoup trop cool, c'est qu'en fait tout le monde écoute. Enfin les Fab Five écoutent les personnes qu'ils vont rencontrer. Parce que c'est ça le but, en fait, c'est de reconstruire les gens en les aidant, en les portant. C'est pas les reconstruire en disant t'inquiète, je gère.
Tu vas changer.
C'est ça, t'inquiète, tu vas changer, c'est moi qui gère. C'est ça qui est beaucoup trop bien.
Ouais, et puis Jonathan est incroyable aussi.
Oh, si on parle après de 5.
Ouais. Jonathan est incroyable parce que dès qu'il va voir quelqu'un, il va trouver le truc, genre il va regarder cette personne, il fait « Oh, mais t'as des yeux magnifiques, tes yeux pétillent !» Enfin, il va toujours trouver l'espèce de petite... le petit trésor de la personne. Oui. Il va direct mettre le doigt dessus.
Et c'est sincère.
Ouais, c'est
quand
méga
il dit
sincère.
À quelqu'un « Tu es très beau ou très belle », c'est sincère, il dit pas ça juste pour booster sa confiance. C'est vraiment quand il voit une beauté, comme tu dis, un trésor sur la personne. Et pareil, ça fait du bien parce que Jonathan, de toute façon, est une personne assez fantastique.
Oui, il est plutôt incroyable. Hein. Mais tous, en fait, ils ont tous un truc. Anthony, c'est un peu le beau gosse marrant de l'émission. Incroyablement l'ami des toutous, tu vois.
Bah, dès qu'il voit un chien, il ne répond plus de rien.
Mais il est incroyablement marrant et pareil, il va cuisiner toujours des trucs super conviviaux, des trucs trop bons. Tan, avec la mode, il a un style de ouf. Et ouais. Je trouve que j'ai bien aimé, à un moment, il disait dans l'émission, il disait dans le dernier épisode, je crois, il disait en gros, mais il y a beaucoup de gens qui nous prennent un peu pour des foufous qui s'habillent comme n'importe comment et tout ça. Mais en fait, nous, on s'en moque tant qu'on est bien dans nos fringues et que ça nous donne confiance en nous, en fait. Et je trouve que c'est ça l'important, c'est que du moment où toi, dans ta tenue, t'es bien et qu'elle te donne confiance en toi, bah, tu t'en moques de ce que pensent les autres. Et plus, je trouve que c'est vraiment... Il faudrait dire ça aux jeunes, parce que je trouve qu'en vieillissant, moi, je m'en rends compte. Mais quand j'étais ado, le regard des autres, c'était horrible, quoi.
C'est
vraiment la pire chose. Et ouais... Et Bobby est un incroyable décorateur. Viens à la maison, Bobby.
Bobby, il a un truc, c'est qu'il met des lits immenses dans les chambres.
Il met des plantes partout.
Il met des oreillers partout et des coussins dans tous les sens.
Et Caramo,
Caramo, c'est le meilleur psy de l'univers.
Ouais.
Je sais pas pourquoi son truc, c'est culture, parce que vraiment, c'est plus un psy...
C'est plus santé mentale.
Oui, oui.
Mais du coup, c'est pas vraiment psychologique. Écologie.
Non, c'est... Oui,
c'est plus, en parlant, il va réussir à débloquer des choses. Ouais, santé mentale plus. Moi, je le mettrais comme ça. Bah, ouais. Remarque, Anthony, c'est cuisine et vin. Je l'ai jamais entendu parler de vin. Non.
Jamais. Il parle de cuisine tout le temps.
Bah,
de
en
chien.
Fait, je pense que la finalité, c'est regarder ça. Regarder.
Ouais, vraiment. Et
prenez
c'est...
toute cette vibe, cette good vibe.
C'est
pour vous,
une
là.
Série doudou qui est parfaite quand on a le moral dans les chaussettes. C'est ce qui se fait de mieux.
Vraiment, si vous la commencez aujourd'hui, vous aurez droit à 7 saisons d'un seul coup. C'est tellement incroyable. Alors que nous, on en a une...
Tous les 3 ans, la dernière, c'était en 2020.
Oh là là, horrible.
C'est devenu trop des stars, ils n'ont plus le temps.
Bah, ils font tous des trucs. Après, si vous voulez regarder, ils ont tous un peu des programmes. Je crois que Tan a un programme sur Netflix aussi de fashion ou de créateur ou je ne sais plus quoi.
Bah, de mode, en gros. Voilà. On n'est pas déçu. On savait qu'on n'allait pas être déçu.
Non, Damien est méga déçu. Je suis sûr qu'il l'a pas regardé.
Et ben, il rate.
Quel
vraiment...
ratage.
Il rate vraiment quelque chose d'assez ouf. Et ben, on peut passer aux recommandations et aux nouveautés du mois de juin.
Sion. Matrix. Sion. Tout est lié. Et c'est l'heure des recommandations et des nouveautés de chant. Ça continue. Quoi ?
Il y avait déjà eu un jingle, mais pourquoi pas.
Ok. Ça continue. Que des animés, parce que c'est ce qui dure vraiment au niveau de la diffusion, 3 plombes. Il y a toujours mon histoire d'amour avec Yamada Level 999. Un épisode par semaine. On est à 9 épisodes sur 13. Oshinoko, saison 1, toujours en cours. Sur ADN, on est à 8 épisodes sur 11. Demon Slayer, saison 4, sur Crunchyroll, on est à 9 épisodes sur 11. Et Skips and Loafers, saison 1, sur Crunchyroll, on est à 10 épisodes sur 12.
C'est bientôt
donc,
les fins.
Normalement, le mois prochain, on aura fini tout.
Ça va parler d'anime le mois prochain, je peux vous le dire.
Peut-être pas mon histoire d'amour avec Truc Yamada.
Ah bah...
Je sais pas.
Ok.
Et sinon, qu'est-ce qu'on regarde ce mois-ci en juin ? On regarde, le 4 juin, The Idol, la saison 1, sur OCS, qui fera 6 épisodes. C'est par les créateurs d'Euphoria.
Ça va être dark.
Ça va être super dark, oui, je pense aussi. Le 7 juin, sinon, on regarde Single Drunk Female, saison 2, sur Disney+. Alors, petite anecdote.
On a déjà vécu ce moment-là.
On en a déjà parlé, je ne sais plus quand. Et en début de mois, j'étais trop contente d'aller sur Disney+, pour relancer la saison 2, mais en fait, elle a été décalée. Donc, bah, me revoilà, en train de reparler, là, d'avoir un effet de déjà-vu. Déjà-vu, comme ils disent
dans Matrix.
En anglais. Déjà-vu. Ils le disent trop bien, les Anglais. Déjà vu. Le 9 juin, il y aura Mes Premières Fois, saison 4 sur Netflix, 10 épisodes, et ça sera le final. Il me semble.
Oui.
Il me semble.
Je dis oui, mais j'en
je
sais
crois.
Rien.
Je crois que c'est le final.
J'en sais rien du tout.
J'adore cette série. J'avais aimé la saison 1 incroyablement, la saison 2 moyen, la saison 3 mieux, la saison 4, on verra. Le 16 juin, Colin from Accounts, saison 1 sur Prime Video, 8 épisodes d'environ 30 minutes. Oula, 30 minutes. 30 midi, bonjour.
C'est, oh là là.
30 minutes, c'est une comédie romantique. Ashley et Gordon sont réunis par un accident de voiture et un chien blessé.
Ça a l'air alors, feel good comme il faut.
Alors le résumé, c'est... J'ai pas tout compris, mais d'accord.
En fait, le résumé parle de la première scène de la bande-annonce. C'est un garçon qui, dans sa voiture, qui voit une fille dans la rue, il tombe amoureux instantanément, enfin coup de foudre.
Et en fait,
sa voiture, il contrôle plus trop sa voiture. Il avance pas vite, hein. Il contrôle plus trop sa voiture et en fait, il roule sur un petit chien.
Oh, mais non, c'est horrible!
Donc, du coup, bah, les deux l'emmènent chez le vétérinaire.
Oh!
Et histoire d'amour démarre.
Est-ce
et visiblement,
survit?
Le petit chien a l'air d'aller bien.
Ah, ok, ça me donne grave envie.
Non, ça a l'air très rigolo.
Tu m'as hypé. J'aime.
C'est une série australienne, je crois.
Oh, d'accord. Outlander, le 17 juin, saison 7, partie 1, sur Netflix. Non, mais ça va. Alors, moi, j'ai regardé beaucoup de Outlander. J'ai dû m'arrêter à la saison 3. Ça me paraît déjà.
Pas, c'est, ou 4. Du coup, c'est même plus la moitié. Hein.
Non, mais en vrai, jusqu'où ça va? Ça va pas du tout. Parce que moi, quand j'ai commencé la série, on parlait de les héros et les héroïnes, ils avaient genre 18 ans, 19 ans. Maintenant, la dernière fois que j'ai regardé, ils avaient des petits-enfants.
Ah oui.
Oui.
T'as raté beaucoup de choses.
Et en plus, ça parle de voyage dans le temps. Je sais pas si je regarderai la suite. Je sais pas. Peut-être un jour. 21 juin, c'est pas la fête de la musique ?
Si.
Ah. Pour la fête de la musique, vous aurez Secret à My Jam.
C'est vraiment dans
saison
le thème.
1 sur Disney+. C'est 6 épisodes de 50 minutes. Il y aura un épisode par semaine. C'est la nouvelle série des Marvel Studios.
Oui, c'est ça.
Où on suit Nick Fleury.
Nick Fleury. C'est Nick Fleury. C'est le printemps.
Nick Fleury.
Mais non, c'est l'été du coup.
Nick Fleury à votre service.
On dirait un fleuriste.
Oh, j'ai trop envie qu'on a. J'ai trop envie d'ouvrir une boutique qui s'appelle Nick Fleury. Ah, incroyable. Bizarrement, j'ai pensé à Nick de Gilmore Girls.
Bah oui. Ouais, Nick Miller.
J'ai pas pu m'en empêcher. 22 juin, il y aura Glamourous saison 1 sur Netflix. Alors, j'ai juste lu le résumé, ça m'a donné envie, alors ça arrivait là. Mais je me rappelle déjà plus.
Ah bah cool, vraiment.
C'est la fin de soirée. Hein. 23 juin, I Am Virgo, saison 1 sur Prime Video, 8 épisodes de 28 minutes. Un géant de 4 mètres tentant de vivre le plus normalement possible à Oakland, en Californie.
C'est la bande-annonce est vraiment marrante. C'est vraiment littéralement un mec qui fait 4 mètres et qui vit dans notre monde. Donc tout est trop petit pour lui. Il galère trop dans la vie, ça a l'air drôle en vrai.
Un peu rire.
Mais oui.
Je suis trop fatiguée, je rigole. 25 juin,
mon
Titan.
Numéro irrésistible.
Titan, saison 4 sur Netflix, 12 épisodes de 45 minutes, dernière saison. Après, c'est fini. C'est Titan ou Teen Titan ?
Bah, c'est pareil, sauf que bah, Teen Titans, enfin la série s'appelle Titans, c'est pas Teen Titans.
Ah, elle s'appelle juste Titans. C'est vrai, j'y avais pas réfléchi. J'ai genre 2 saisons de retard.
C'est à peine la moitié.
28 juin, The Orville, New Horizons, saison 3 sur Disney+. Ça va trop envoyer du lourd.
C'est trop
ça
bien,
va trop
The
envoyer
Orville.
Du lourd.
Ce qui paraît, c'est très sérieux. C'est presque du Star Trek. C'est plus trop.
Mais déjà,
comédie.
La saison 2 était vachement sérieuse. Oui, restait quelques gags par-ci, par-là,
mais
parce
là,
que quand même...
Moins. Là, c'est très premier degré.
Eh ben, je pense que je vais apprécier. Moi, j'aime trop. 29 juin, The Witcher, saison 3, volume 1 sur Netflix. Volume 1.
Parce que c'est partie 1, mais appelée autrement.
Ils ont découpé en deux aussi ?
Bah oui.
Encore ?
Évidemment.
Et est-ce que du coup, il y aura...
Un volume 2 ? Bah, je pense.
Non, c'est pas ça. Est-ce que du coup, le The Witcher sera toujours monsieur...
C'est la dernière saison d'Henri Cavill.
Voilà. Est-ce qu'il sera dans la première partie et dans la deuxième ?
Bah, je pense.
Ou juste dans la première et pas dans la deuxième ?
Je pense que dans toute la saison 3, il est là.
D'accord. Et après, il n'y aura plus. Donc
après,
ça sera The Witcher sans Henri Cavill.
Liam Hemsworth.
Hein ? C'est non, Liam. Mais par contre, ils vont... Ok.
On en a déjà parlé. Hein.
Oui, non, mais moi, je ne sais pas comment il va devenir un autre acteur.
Alors, je crois que c'est qu'il va mourir puis se régénérer dans un halo de lumière flamboyante.
Un peu comme dans Doctor Who.
J'ai vraiment décrit Doctor Who.
C'est clairement Doctor Who.
Je sais pas, en vrai.
Ok. Ça serait marrant. J'imagine bien. Ah, c'est moi.
Ça
mais je n'ai plus la même tête.
C'est un peu se moquer du monde.
Bah, l'actrice qui joue la sorcière, elle avait pas vraiment le même visage au début de la série et après.
Oui, peut-être qu'il y aura... Une justification du scénario.
Le Pavillon des Hommes, animation animée. C'est un animé sur Netflix adapté du manga de Fumi Yoshinaga. Dans une réalité où la population masculine est presque décimée, certains hommes sont choisis comme concubins de la shogun dans un pavillon interdit. Mais en fait, si, maintenant que tu me le dis, ça me titille le cerveau. Si, ça me dit quelque chose, mais je les ai pas à la boutique, ou alors je les ai complètement zappés. Mais ça te donne envie, toi. C'est étonné. Un animé qui te donnerait envie.
Ah non, ça me donne pas envie.
Ah, ça te donne pas envie. Bah, pourquoi tu l'as mis
alors ?
Parce
que toi, ça peut te donner envie.
Peut-être. Le 30 juin, Nimona, film d'animation sur Netflix adapté du roman graphique de Noël Stevenson. Pour se disculper, un chevalier accusé d'un crime tragique fait équipe avec une adolescente bagarreuse et métamorphe. Étonnant.
Oui, ça a l'air rigolo.
Ça n'a pas l'air trop mal.
Eh bien, en l'absence de Damien, on ne peut pas annoncer le sujet du mois prochain. Donc ce sera la surprise.
Surprise! Happy birthday! Depuis que tu l'as mis une fois, je l'ai dans la tête. J'ai toujours l'impression que ça va arriver.
Non, il n'y a pas de surprise ce mois-ci. La surprise était l'intro. Ainsi se termine ce 31e épisode du Récapito. On espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta et Insta.
Ouais, je crois que là, c'est...
Twitter, tu vas jamais ?
Non, je vais pas.
Et j'ai suspendu mon compte Twitter pour voir si je pouvais vivre sans. Et pour l'instant, ça va très bien. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver sur le blog plaid.fr.
Surtout sur Instagram. je répète, surtout sur Instagram.
Voilà, surtout sur Instagram. On se retrouve dans un mois avec Damien, on l'espère.
Ouais, maybe.
Tu sais où était Damien d'ailleurs ?
C'est une blague ?
Oui.
Oui madame, j'étais derrière la colonne.
Voilà, ça fait un mois que je veux caler ces trucs-là, mais je sais pas comment.
Oui, madame.
Je l'ai enfin trouvé.
J'étais derrière la colonne depuis tout ce temps.
Merci Mathilde pour d'avoir tenu bon.
Je t'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Porter l'épisode comme ça, toute seule, c'est pas facile.
Oui, mais tu es flamboyante. Tu es flamboyante et pleine de charisme.
Waouh. C'est totalement moi. Pas du tout.
Eh bien, à dans un mois.
Oh bah oui, allez, d'ici là, on se voit pas. Hein. Bye bye, ciao, ciao.